Bonjour et bienvenue, nous sommes le samedi 14 juin 2008 et il est exactement midi.
FMR est une radio libre, sans pub et indépendante, fondée à Toulouse en 1981. Notre mission, vous faire partager nos passions, nos coups de cœur et ce qui va vraiment faire bouger votre monde.
Sans vide dans vos oreilles aujourd'hui avec, pour commencer, maintenant, le supplément week-end avec l'actu BD, animation, TV, suivi de, ça c'est du sport, les résultats sportifs, on y investir de l'infirmerie et du grand pleuroir. Et ensuite à 15h c'est du reggae avec Zarma Farai. 17h ça c'est de la bonne viande, de la bonne découverte musicale. 18h Big Bang, 19h Happy World, 20h de l'électro avec la Cetero Experience, 21h30 Pius, 9 Love Suit to Step, à 23h du live avec le potager. Bonjour et bienvenue amis auditeurs, j'espère que vous allez bien. Pour une fois, il fait beau. Hein, du sport, c'est étonnant.
Ouais, mais ça va pas durer.
Oh non, ne dis pas que c'est reparti, qu'il va encore pleuvoir dans nos cœurs, que ça va encore être catastrophique et tout ça. Il y en a un peu marre, vous vous rendez compte, ça fait 6 semaines qu'on n'a pas eu 2 jours consécutifs de beau temps, à peu près n'importe comment, comme ça. Bon, allez. Une nouveauté qui n'en est absolument pas une et qui est produite par l'un des deux Daft Punk. C'était sur le CD des Inrocks de janvier dernier. Et ouais, tout ce temps je l'avais et je voulais pas passer. Mais bon, c'est notre tube de l'été à nous, hein ? Sébastien Tellier représente Da Eurovision for the France Divine. Il est bientôt en concert à Toulouse. Il y a un immense débat entre moi et du sport, non pas s'il fallait ou non passer ce morceau en tube de l'été et tout ça.
Ah bah tu fais ce que tu veux. Hein.
Bon, en tout cas, c'est plutôt sur la manière de réaliser cette année l'Eurovision et c'est vrai qu'il n'a pas été très bien servi à l'image, c'était un petit peu catastrophique. Mais j'ai beaucoup aimé les barbus derrière dans les chœurs. Un morceau exclusivement électro à l'origine, quand même, c'était très très bien osé et tenté. « Thomas n'est pas là aujourd'hui, mais il devrait pas tarder normalement, puisqu'il est en direct à Annecy. Donc on devrait avoir des nouvelles du festival. Deux choses assez importantes pour toi, du sport. Ce nom va peut-être te dire quelque chose. Tim Russell. Je ne sais pas si tu vois qui c'est. C'était le présentateur de Meet the Press sur NBC, qui est un peu l'équivalent de 7 sur 7, de L'heure de vérité et tout ça. C'est une émission qui a 60 ans.
Non, mais je regarde de temps en temps.
Moi aussi, je le regarde parce que c'était très très bien foutu. Tim Russell est mort d'une crise cardiaque hier à 58 ans. Il a repris le flambeau de cette émission mythique de télévision en 1991. Auparavant, il a eu une carrière politique. Ce qu'il faut savoir, c'est-à-dire qu'il a été non pas en avant-plan, mais il a fait partie du staff du parti démocrate. Il a aidé, je crois, un gouverneur et un maire à New York à se faire élire dans les années 70. À partir de 84, et ben il est rentré à NBC dans la filiale NBC News. Il a notamment mis en place pour le programme Today, qui est c'est un mélange de télématin et l'heure de l'info, un truc comme ça. La première interview d'un pape à la télévision américaine. À partir de là, et ben, il est rentré en 91 et il dit lui-même que la recette de Meet the Press, c'était le fondateur du show qui lui a donné, c'est connaître les opinions de ses invités, prendre la partie adverse en lui posant des questions de manière courtoise mais ferme. Alors il faut savoir qu'aux États-Unis, en règle générale, sur les trois grands networks américains, NBC, CBS et ABC, on considère que l'info a énormément périclité depuis les années 80, parce qu'il y a une course à l'audience, donc c'est dû en dessous de tout et tout le reste. Et à tel point que General Electric, qui est le principal actionnaire de NBC, ne passait plus de publicité, excepté pendant Meet the Press, parce qu'il considérait que c'était une notoriété publique, que même les grands satiristes politiques de la télévision américaine comme le Daily Show et tout ça disaient ben c'était une excellente émission, parce que justement il posait les questions qu'il fallait à ces personnes-là, quelle que soit leur opinion, il prenait forcément l'opinion adverse parce qu'il fallait. Et justement à partir de là, c'était connu au Parti Républicain que si un candidat pouvait passer ce qu'on appelait le Tim Russell Test, il avait des chances d'être plutôt bien accueilli. Donc c'est considéré comme une très grande perte pour donc le journalisme américain. Est-ce que c'est peut-être un petit peu exagéré? Moi je ne pense pas, parce que c'est vrai qu'à avoir bien regardé cette émission, où il y avait aussi bien, je vais dire, des reprises de petites phrases dans la presse. C'était quand même relativement court. Je crois qu'il prenait chaque invité en un quart d'heure à peu près. C'était quand même pas inintéressant, loin de là. Et plutôt bien venu. C'est un peu dommage. Après, si vous voulez en savoir plus et que vous avez le câble, je crois que ça passe en France à 18h le dimanche, je ne sais plus. Enfin, normalement, il devrait avoir une émission spéciale là-dessus. Tim Russell, donc, qui est l'un des grands journalistes américains qui a inspiré qui a animé une émission qui a inspiré 7 sur 7, L'heure de vérité et tout ça, qui disparaît, c'est quand même bien dommage. Il n'y a plus d'émissions politiques de cet acabit régulièrement en France. C'est quand même un petit peu dommage. Peut-être que ça reviendra, on verra ça. Je crois qu'on a quelqu'un à mon téléphone.
Oui, bonjour.
Bonjour Thomas, comment vas-tu?
Ça va super bien, et vous? Est-ce que la météo fait-il à Toulouse?
Eh ben, enfin il fait beau.
Ah,
et très comme
bien.
Dit du sport, ça va pas tarder.
Bon, je vous appelle en direct du Festival du film d'animation d'Annecy.
Oui!
Youpi, vous avez vu que l'émission Supplément Week-end a les moyens d'envoyer un envoyé spécial à Annecy quand même. Hein.
C'est bien.
C'est pas la gnognotte, c'est l'émission de compétition. Donc nous avons cette année une émission qui est placée sous le signe des Simpsons, puisque nous avons le plaisir de recevoir l'excellent Matt Groening.
Très bien.
Magnifique.
Ah bah oui, qui a provoqué une immense cohue hier et avant-hier, puisqu'il y avait une séance de dédicace organisée. Donc je vous laisse imaginer le bordel qui est régné dans le festival.
Ouais, t'as tenté ou t'as pas osé?
Ah non, j'ai pas osé. En plus, une heure avant, c'est déjà blindé. Donc voilà, pas no way. Donc un festival passé sous le signe des Simpsons, puisqu'hier sur l'écran géant en face du lac d'Annecy, il y avait projection du film Les Simpsons. Également une expo sur la série, assez décevante en fait. Assez décevant, nous avons Awa, que nous avons que nous avions déjà invité, qui nous fait des rampes signes à côté. Donc une exposition assez décevante, oui, effectivement, puisque ce sont juste des reproductions avec comparaison storyboard, film, ce sont des documents qu'on peut aisément retrouver dans les bonus d'un DVD, donc pas grand intérêt, malheureusement. Matt Groening est là, bien sûr, car il est juré pour attribuer le palmarès.
Il n'est pas président du jury, alors?
Ah, c'est possible, mais je n'ai pas la doc sous les yeux. Donc,
pardon, désolé.
Voilà, il m'a pas semblé voir président, mais bon. Ensuite... il est venu répondre à des questions également dans une salle bourrée à craquer autour des Simpsons, donc voilà. Ensuite on a eu une exposition assez intéressante par l'animateur de Roger Rabbit, Richard Williams. L'émission couronnant enfin une exposition couronnant 50 ans de carrière qui était très intéressante, où on voyait le gars surdoué, énervant, qui dessinait déjà comme Raphaël à 17 ans. Génial, hein.
J'imagine, voilà. Parce que justement, s'ils l'ont pris pour Roger Rabbit, c'est que il est anglais d'ailleurs, il me semble. C'est parce que justement, il s'était montré particulièrement doué dans énormément de studios différents, quoi.
Voilà.
Et prolifique.
Le pays invité d'honneur cette année est l'Inde, tant que nous n'avons pas encore eu la possibilité de voir des films. Ah, c'est pas Bollywood, hein. Des films d'animation. On va voir une séance cet après-midi, on va voir ce que ça donne. La grande déception du festival, à petite échelle, c'est-à-dire nous, hein, donc c'est la qualité des courts-métrages assez décevante, puisqu'on a l'impression vraiment que le festival a souhaité mettre l'accent sur la diversité des techniques d'animation au détriment de la qualité des films, en fait. Puisque, on va dire, sur des séances de courts-métrages en compétition, hors compétition, en films de télévision, etc., on peut avoir sur 10 films au moins 2 de potables, et le reste... vous imaginez que les festivaliers sont assez claqués dès qu'ils se posent sur un fauteuil, je peux vous dire qu'il y a quelques renflements qui se font entendre.
Aïe.
Hier, on était à côté d'un membre du jury qui s'est dit « Mais qu'est-ce que ça fout là, ce film ?» Il s'est barré carrément. Donc on va voir. On ne sait pas trop ce que ça va donner de ce côté-là. On a également, mais voilà, le festival bénéficie d'une excellente météo en face du lac d'Annecy, donc super paysage.
C'est tout le monde pique-nique dehors. C'est quoi la différence fondamentale? Parce que bon, on parle souvent de la cohue à Angoulême, de la cohue pour les séances de dédicace et tout ça. Comment ça se passe pour le grand public en général à Annecy?
Le grand public déjà fait une queue monstrueuse pour avoir des places, pour avoir la chance de regarder des films.
D'accord, donc il faut s'asseoir, quoi.
Oui, il faut s'asseoir, il faut amener la petite chaise pliante, ça vous serez pas dépaysé si vous connaissez déjà Angoulême. Ensuite, il faut savoir que les dédicaces sont pas en off, mais en marge hein, du festival, même si elles sont dans le quartier général, à la librairie BD Fugue. Donc les éditions Ankama étaient en force cette année, puisqu'on a pu voir les dédicaces autour de l'artbook Café Salé. On a eu l'une des deux compères qui ont fait Kuma Kuma. On a eu également Maliki qui était là, Souillon.
Ouais.
Donc on a eu pas mal de beau monde de ce côté-là. Et ensuite effectivement c'est l'autre grand point fort du festival, mais ça voilà, il faut parler anglais, il faut pas avoir peur des traductions et tout, c'est la présentation en exclusivité par les grands studios de production des futurs fleurons qui vont arriver courant 2008-2009. Donc hier on a pu voir la présentation du nouveau DreamWorks Igor.
Okay.
Qui est un hommage à Frankenstein et à tous les films de la Hammer ou des films de monstres des années 20.
Plutôt horrifique, et je suppose quand même, parce que DreamWorks se justifie justement sur ses productions 3D par un humour un petit peu plus adulte.
Oui, on va dire plutôt un humour assez référencé aussi. Bon, évidemment, c'est un mélange entre les influences Tim Burtoniennes et Frankensteiniennes, donc. Dans l'ensemble, le film avait l'air assez rigolo, mais voilà, ça n'enlèvera pas l'idée que les DreamWorks sont complètement largués par les Pixar quand même. Hein.
Techniquement, graphiquement, scénaristiquement.
Voilà, sur tous les points.
D'accord.
Voilà.
Autre chose aussi, si tu es à Annecy, je suppose que vous avez droit au forfait de ski ou vous êtes en chemisette. Fais-nous baver, nous qui sommes à Toulouse.
Nous sommes en t-shirt, il y a quelques vents frisqués des fois, donc on met un peu de petite laine qu'on enlève aussitôt, on est en lunettes de soleil, casquette, et on mange nos kebabs face au lac.
D'accord. Combien il y a de participants, de festivaliers à Annecy?
Pour l'instant, on voit surtout beaucoup de gens avec des badges, donc la proportion de festivaliers est assez impressionnante par rapport au grand public, je dirais. Il faut savoir que le festival est assez centré sur le quartier général, c'est à Bonlieu, donc au centre-ville, mais également il y a des projections de longs métrages qui sont un peu disséminées dans toute la ville. Donc c'est vrai que le grand public va plutôt aller dans les longs métrages en question, hein. Ce sont Ken le Survivant, La Légende de Rao, Évangélion.
Il y a une présentation exclusive des nouveaux films, d'après ce que j'ai compris.
Il y a aussi des films qui sont déjà sortis, il y a la projection de Persepolis, des Simpsons, etc. C'est vers ces films-là que le plus grand public va aller, plutôt que des séances beaucoup plus ciblées comme les nouveaux Dreamworks, le nouveau Space Chimps qui a été projeté ce matin.
Est-ce qu'il y a l'équivalent d'un off? Est-ce qu'il y a des projections, des expos à côté?
On n'a pas trop vu pour l'instant. Effectivement, je ne saurais pas dire, parce qu'on est là que 3 jours, et c'est vrai
c'est la première fois que tu y vas en plus, donc c'est pas évident à tout suivre.
Voilà, exactement. Ouais. Et puis à force de, en plus il y a beaucoup de courts métrages qui sont diffusés, donc c'est clair qu'on peut pas tout voir. C'est ça qui est dommage, et quand tu vois une session de court-métrage, il y en a 4 par catégorie, c'est vrai que t'as un peu, sur ta fin, tu dis alors comment étaient les autres, est-ce que ça a été recoupé par thématique, on sait pas trop. Donc c'est ça qui est un peu dommage, on peut pas tout voir, c'est clair.
Point de vue carte bleue, t'en es où?
Oula, je ne compte plus, mon cher. Donc c'est clair que...
Vous allez devoir acheter une semi-remorque pour le retour?
Oh, sans doute, mais par contre... Ce n'est pas du tout orienté animation japonaise. Ça privilégie encore une fois la diversité. Ça peut aller.
Oui, c'est quand même l'intérêt de ce genre de festival. Hein.
Voilà, exactement. C'est pas la Japan Expo, si vous voulez savoir. Hein. Donc ça peut aller de une rétrospective historique sur un des pionniers de l'animation des années 20, ou ça peut être des DVD des films de Super Focom, des lauréats des festivals d'Annecy des années précédentes. C'est assez divers, et c'est ça qui est intéressant, en fait.
D'accord, tout ça tu vas en parler la semaine prochaine, sachant qu'en plus on a un dossier assez complet parce qu'il va falloir parler de Japan Expo et de JCVD, qu'on n'est toujours pas allé voir.
Voilà.
Et sans compter d'ailleurs, tiens, si tu vois les mecs d'Ankama, si tu tombes sur l'attaché de presse, tu le traiteras d'enfoiré quand même.
Alors l'attaché de presse n'est pas là, je lui ai laissé un messagier, il m'a toujours pas rappelé.
À mon avis, il doit être débordé quand même, parce que là, l'annonce qui a été faite hier était jolie. Voilà, on en saura peut-être plus. D'ailleurs, je crois qu'il vient la semaine prochaine. Hein.
Qui?
Alix.
Non, c'est pas la semaine prochaine, c'est en juillet. On essaiera de l'avoir pour l'émission en juillet.
Pardon, excuse-moi. Je me suis complètement planté dans mon agenda, excuse-moi. Thomas, je te remercie, je te laisse profiter à nouveau du festival, donc éclate-toi bien. Salutations à Nils, à Avoy et à Sabrina qui aussi doivent être très contents, donc ouais, youpi!
Voilà, exactement, là je les ai perdus, j'essaie de les rattraper, et puis bonne émission à vous, et à samedi prochain alors.
Ok, merci Thomas, ciao.
Bisous, ciao.
h 18 minutes et 42 secondes sur la poubelle des radios. Dans le supplément week-end, donc Thomas qui était en direct d'Annecy par téléphone. Et là, si tout va bien, on va vous passer de la pop chinoise. Ouais. Excuse pour la mauvaise qualité du CD.
Mmh. 能在沙里藏着多少个梦想，总感觉也近在前方。清晨的阳光慢慢洒在我脸上，我急急忙忙走在繁华的路上，高楼大厦里藏着多少个梦想，总感觉也幸福在前方。后来也勇敢去闯荡，后来也我身上有无穷的力量，后来也太多感动不能被遗忘，后来也梦在前方。
Son Yang et Gao Jin, je sais pas si je prononce bien une fois de plus. Alors malheureusement, on n'a pas les titres du morceau ni du nom du groupe. Son Yang, c'est un des dessinateurs dont on a déjà parlé auparavant pour Wild Animals, qui était une histoire d'amour à l'époque du grand bond en avant, donc dans une Chine maoïste qui était plus vers le bonheur des masses, mais pas le bonheur individuel. Et pour Matous et Pingouin, Son Yang, donc ça c'est un morceau qui en fait fait partie d'un CD de deux titres qui est inséré dans Reload, sa nouvelle BD. Là c'est la suite de Matous et Pingouin qui raconte encore une histoire d'amour, mais cette fois-ci dans la Chine actuelle, la Chine moderne, la Chine industrieuse et capitalo-communiste qui est en plein départ pour les Jeux Olympiques. Et là donc c'est le deuxième tome qui vient de sortir chez Chiaopan, et ça représente encore une fois cette jeunesse, une jeunesse qui s'émancipe, qui est partie de chez ses parents pour travailler, pour essayer de trouver de quoi manger, parce que à la campagne, à ce qui paraissait mieux en ville, il y a toutes ces usines et tout ça. Oui, mais quand on est jeune et qu'on n'a pas une perspective de carrière brillante, pas génial d'être la manufacture du monde, on rêve de devenir artiste. Jia est un jeune garçon qui préfère croire en ses rêves plutôt qu'à se satisfaire des petits boulots dans la banlieue pékinoise kiffée comme livreur de sandwich pour un fast-food et tout ça. Il croit en sa musique, celle qu'il fait avec Meng et Minette dans son petit groupe, un groupe qui a des tendances plutôt pop anglaises et tout ça, donc après tout, pourquoi pas. Et puis tout va basculer le jour où son groupe favori, French Oxygen, lui propose un poste de chanteur. Comme ça, par hasard, c'était parti tout simplement d'un long cri qu'il a fait sur scène en montant alors qu'il allait slammer. Ce qui veut dire changer de vie, changer de job, mais aussi laisser tomber son ancien groupe. Mais est-ce que le recoup du sort n'est pas dû par hasard à la fée Carabosse ? loin d'être aussi noir que les bandes dessinées de Benjamin, dont on avait déjà parlé, notamment Orange et Dream. Celles-ci n'ont pas non plus que du bonheur à revendre. Disons que le cynisme de l'histoire passe mieux par l'insouciance des personnages principaux. Le thème est universel, la méchanceté de la télé-réalité aussi. Wild Animal, c'est Matou et Pingouin, dont en fait Reload constitue une suite, du même auteur, était en noir et blanc. Là, on est passé à de la couleur directe sur tablette, qui amène immédiatement à la comparaison avec un... Ah tiens, Benjamin, là aussi. Un artiste chinois qui s'était montré très talentueux et qui nous avait fait baver, littéralement. Il y a d'énormes différences, notamment sur un côté... largement moins mélancolique et triste de l'histoire, puisque ça a été, c'est contrebalancé par des petits dessins humoristiques autour des personnages, des exagérations de sentiments qui font un peu penser à du SD comme de la, dans la manga japonaise. Et pourtant l'histoire est assez sombre, mais par le regard nettement plus lumineux des protagonistes, et ben ça passe quand même un petit peu mieux. La partie artbook à la fin de l'ouvrage montre cette volonté. Il y a aussi des rencontres, des interviews avec cet auteur où on découvre que Song Yang, en plus d'être dessinateur, justement, a une carrière de musicien qui est relativement jeune. Hein, il a 26 ans et que il se montre plutôt artiste complet. Là, on va passer le deuxième extrait du CD, rien que pour votre bonheur. Reload de Song Yang vient de sortir donc chez Chiaopan, et même carrément sorti depuis quasiment un mois. Donc le deuxième extrait du CD, deux titres qui est inséré dans l'album. Toujours Song Yang avec son ami Gao Jin.
荒谬与真实，听来的回忆，追逐在同一个城市奔跑，回眸掠过，明天哪里？湛蓝的天空，燃烧的理想。 No one to see， 蒙娜丽莎的舞。
蒙娜丽莎的舞步，刺破他你和你的恋人，想象般凋落。
下的舞步，飞过他一个一个脸颜，想象般掉落，触碰的爱情，一直摇晃像描绘，我们每天都同样的重复生活。
Sonia Nechaojin, donc c'est un double CD dont je n'ai pas les titres en fait. Enfin, c'est des promos de titres qui est donc inséré dans l'album Reload qui vient de sortir chez Chiaopan. Et là, je crois qu'on est pile poil à l'heure pour les publicités.
C'est midi, la journée va commencer. Autant bien démarrer avec un cacao Jim Turbo. 3,76€ la boîte de 500 grammes. Un cacao Jim Turbo pour bien démarrer. Cacao Jim Turbo!
Hey! Ho! Let's go!
Mais où ça? Pourquoi?
Bah, au bikini, c'est la nuit Ramones le 20 juin à 21h.
Avec Lady Distortion,
The Ramirez,
Supermarket,
Sacco e Vanzetti,
Rock'n'Roll Rebels,
Monsieur Wong et les Ramonettes.
Suivi d'un After 80s.
Tout ça pour 5€ avec une conso.
Bon, alors si vous voulez avoir une Havana à faire avec China la punk rockeuse, il va falloir que vous soyez sevrés et que vous arrêtiez de sniffer de la colle.
Le 20 juin, au bikini, c'est la nuit Ramones avec FMR.
Je suis sûr que Havana Affair, c'est une expression de l'époque punk. Ça vient même pas de 98, ça.
C'est bien plus ancien que ça, à mon avis.
On continue les sorties bande dessinée dans le supplément week-end. Mission numéro 159, déjà. Avec, d'après une idée de Shekhar Kapoor, qui est un réalisateur pakistanais dont on avait déjà parlé puisqu'il se lançait dans la bande dessinée dans un projet qui s'appelle Fusion Comics, et ben donc voici son nouveau projet avec Zeb Wells au scénario et Michael Gaidos au dessin, Snake Woman. Une histoire en deux tomes, le premier tome donc, s'appelle Un serpent humain et vient de sortir chez Fusion Comics. C'est l'histoire de Jessica qui vit dans une banlieue, on va dire populaire, à défaut de pourrie. Ça commence pareil à Los Angeles. Elle a une colocatrice assez entreprenante et portée sur la zigounette, un voisin très mignon qui vient d'emménager et un emploi de serveuse dans un bar. Bref, rien de bien folichon jusqu'à un soir où un client avec un étrange bracelet l'agresse brutalement dans une ruelle derrière. Peut-être c'est là qu'arrive le déclic. Une personnalité enfouie au fond de son âme qui ressort dans un cas critique pour la sauver malgré elle. Car elle va découvrir qu'elle est une tueuse impitoyable et sanguinaire, la réincarnation d'un esprit meurtrier qui remonte à des millénaires et des millénaires et des millénaires, quelque part dans la presqu'île indienne. Un monstre réincarné, celui de la femme serpent, et qu'une société secrète cherche sa trace depuis très longtemps pour l'éradiquer, forcément. Légitime défense par instinct de survie. Je dirais plutôt envie de meurtre, oui. On sent que Michael Gaidos n'est pas encore suffisamment détaché de son personnage d'Alias. Je ne parle pas de la bande, de la série télé, je parle plutôt de la bande dessinée où en fait une ex-vengeuse monte une agence de détective. Et on retrouve exactement graphiquement le même personnage, c'est exactement le même, à moins que justement il n'ait finalement été pris pour ça, c'est la question que l'on se pose. Son trait brut donne une ambiance lourde à l'histoire. Zeb Wells n'est pas n'importe qui, c'est une scénariste qui a entre autres fait Spider-Man année 1 il y a quelques temps. Et ben Shekhar Kapoor est connu pour avoir fait La vie d'Elisabeth première donc au cinéma, et donc avait entre autres fait Ramayana, l'adaptation du Ramayana dans le futur. On avait déjà chroniqué, on avait dit que on trouvait l'histoire pas suffisamment dense et le nombre de pages annoncé peut-être trop court pour une œuvre aussi imposante dans l'imaginaire hindou. Mais encore une fois de plus, Snake Woman, l'idée est partie en fait d'une légende indienne qui est adapté. Alors en deux tomes, peut-être oui que ça passe. En tout cas, moi, la question que je me pose, c'est est-ce que finalement, ne vaut-il mieux pas que ça soit le réalisateur lui-même qui écrive son scénario plutôt que confier ça, à des grandes plumes quand même, du comics américain. Mais je trouve à la limite un petit peu dommage que cela se passe systématiquement aux États-Unis, c'est-à-dire qu'on a essayé ce qu'ils ont fait par exemple pour Voodoo Child avec Nicolas Cage et son fils, donc c'est-à-dire on prend des grands noms du cinéma et on met des grands noms du comics américain pour essayer de passer quelque chose de la culture indienne pour dire ah mais vous voyez il n'y a pas que les Japonais qui sont intéressants. On verra. En tout cas, moi, j'ai trouvé l'histoire pas trop mal. Ce qui m'a vraiment gêné, effectivement, c'était le fait qu'on ait retrouvé le même l'héroïne principale d'Alias, physiquement, trait pour trait. Si c'est pour ça qu'ils ont pris Michael Geddos, je trouve ça un petit peu dommage. Zeb Wells met du temps, je dirais, à y mettre le tempo pour cette histoire. Je trouve ça un petit peu dommage, même si quand même, elle brode quand même plutôt très bien l'histoire en question. Snake Woman, tome 1 sur 2, un serpent humain, d'après une idée de Shekhar Kapoor, scénario de Zeb Wells, et dessin de Michael Geddos, vient de sortir chez Fusion Comics. Yeshibé vient d'arriver, n'a pas posé correctement en place son micro, n'importe lequel le verre. Voilà, merci.
Bonjour.
Bonjour, j'espère que tu vas bien. T'es arrivé trop tard donc pour le débrief de Thomas, mais tu es excusé.
Je sais bien, je sors du boulot.
Et je ne trouve pas normal que tu aies le mot de passe pour entrer dans le studio. Ça te permet d'intervenir dans mon émission, ça ne me plaît pas. On va changer de code à Senti. Non, tu bouges pas le micro à cause du bruit que ça fait. Et tu mets un casque, je crois que ce serait mieux.
Ragnagna.
Ragnagna. On va parler de totalement autre chose, beaucoup plus punk. Forcément, après les Ramones. Puisqu'il s'agit donc du 200e numéro du Psychopathe qui est arrivé. Enfin, on y croyait. Enfin, Carly y croyait vaguement plus. Donc, le numéro de juin-juillet, 9,80€ en kiosque. Si vous êtes abonné, vous l'avez reçu. Et donc, ben, ce 200 pages, 200e numéro de Psychopathe. Il y a 200 pages. Non loupé, il y en a 212. Voilà. C'est un spécial Jeux Olympiques, forcément, autour. Ça tombe bien. Alors, on retrouve évidemment la tribu habituelle, autour du Psychopathe. C'était la tribu Carali. Donc, Carali, Edika, Chat, qui c'est qu'il y a d'autres, encore Olivier K, et Melaka, puisque c'est la petite famille de Carali. On retrouve aussi Katou, Le Rouge, Tcha, Pixel Vengeur, Sirou, Ivars, Karit. Ivars, moi, il me fait toujours rire par ses tentatives de suicide. Et Karit, eh ben, lui, c'est un ancien des requins marteaux. On le savait déjà. Mais on a aussi une pléiade d'invités prestigieux pour cet album-là. Enfin, pour ce numéro très épais, exceptionnel. À savoir qu'il y a Léandri, Le Fret Touron, Mo CDM, Herlé, Le Croar, Robert Crumb, s'il vous plaît, Davy, le scénariste de Nerds. Enfin, il y a du beau monde dedans. On est très 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 surpris. Justement, le gag de Bruno Léandri m'a beaucoup fait rire à l'intérieur. Bref, c'est vraiment une tranche de poilade très très punk, assez allumée. Et ils ont évité quand même de faire le même exploit que pour le premier tome, pour le premier numéro du petit psychopathe illustré, comme ça s'appelait à l'époque. C'était faire un trou à la main au poinçon dans chacun des 3000 exemplaires. C'était un poinçon à main, c'était une sorte de poignée qu'on enfonce vraiment très fort pour essayer de percer. C'était un sketch, il voulait faire le seul journal avec un trou. Ça a valu à Carali un mois d'arrêt de travail. donc fallait quand même éviter. À l'époque, il était accompagné de Willem, Roland Topor, Kamagurka et Gudule, qui allait devenir sa femme. À savoir donc que à l'époque, le petit psychopathe illustré avait été fondé tout simplement par la fin de Harakiri et de Charlie Hebdo. C'était la première version qui a tenu 10 numéros. Le deuxième numéro, créé en association avec le professeur Choron, n'en tiendra que 4. Et c'est en 1989 que sort la version actuelle, qui arrive à son 200e numéro. Comme d'habitude, c'est en noir et blanc sur un papier, on va dire, plutôt léger, parce que, voilà, c'est une petite édition, Zebu Édition. Ils ont des meilleures relations du monde avec Fuit Glacial, mais Fuit Glacial, maintenant, fait partie d'un très gros groupe, donc ça n'est pas exactement les mêmes moyens qu'il y a derrière. Et après, ben, ce sont des histoires qui ne seront pas forcément en album derrière, donc il y a pas mal de créations originales et qui ne sera que là-dedans. Et pour en profiter, ben, il faut quasiment s'abonner. Ça tombe bien, il y a 200 abonnements à gagner, dont 20 à vie. Et ils prennent des risques, hein, 20 à vie. S'ils ont tenu 200 numéros, ils seraient capables d'en tenir 400. Attention. Enfin bref, il vient d'arriver en kiosque. Moi, je me suis putain de poilé à l'intérieur. C'est assez sardonique et méchant. On a pas mal de gens qui viennent de la presse satirique ou bien du fanzina. C'est toujours aussi frais et décapant à lire, sachant qu'il y a un test pour savoir si vous êtes un punk tendance Florent Pagny ou un punk tendance vrai punk. Alors j'ai essayé sur moi. Je suis punk plutôt tendance UDF, ça n'étonnera personne. Mais j'ai essayé connaissant Rascal, il est plutôt punk tendance Florent Pagny, le pauvre. Bref, c'est assez rigolo. C'est en kiosque, disponible normalement courant de cette semaine. Hein. Je crois qu'on le chronique un petit peu en avance. Donc voilà. Après du sport, je sais pas ce que tu en penses. Je sais pas si c'est avec ça que tu vas faire la première heure de ça, c'est du sport avec. Ça ne m'étonnerait pas trop. Alors je vous dis pas, dès que JB arrive, ça devient le gros bordel, y a tout qui part en couille. T'as pas de bol, hein, t'as pas de bol. Allez, on passe à Inner Zone Orchestra featuring Lexi Daisy Cole, The Beginning of the End.
You understand? I don't know who you are. I mean, you're in my house, man. What's wrong with you?
No.
Yeah, you're in my house. Man, where the phone is at, bro? Get your phone, bro.
Somebody say something to me.
All right, you ain't lost your mind, son. Put it down. Keep stepping.
Shoot to live, eat to die. They wonder what it's like when the ocean line meets the sky. Millennium. Yo, millennium. Shoot to live, eat to die. They wonder what it's like when the ocean line meets the sky. Millennium. Yeah, they wonder what it's like. Millennium. Listen, trash kid, smash bill, the blame me. I'm slipping to the bars of insanity. Adam, he didn't know be such a horrible plague. This awful day was brought to you in part by Carl Craig. And the zone is black, dressed in black. Nobody hear them strings in the back. No, cause it's up in my mind and I bet you're fine. Michael Jackson and his monkey with a whore and a junkie. Running from the plague. Running from the plague, but they can't get away. Running from the plague. Running from the plague, but they can't get away. Shoot to live, eat to die. They wonder what it's like when the ocean line meets the sky. Millennium. Shoot to live, eat to die. They wonder what it's like when the ocean line meets the sky. Millennium. Just think of how it'd be like. Yeah, they wonder what it's like. Are those pianos? Wise, but the world won't listen, cause they've all gone mad. And yellow and blue make green like the grass. And it's getting crazy out in these streets.
size 9 shoes on my size 10 feet. Crazy like a fox to this mission, where's the lamb? I'm trying to get some chips for the tenderloin, dog. Can I get that? Thank you, dog. Thank you, dog. One day I'm gonna write a song that shows you what I mean when I say that. Yellow and blue make green, cause the grass won't grow on me. Yo, thank you for the test. Can I get you by the ice cream sandwich? Please, man, I'm asking you nice, man. Shoot to live, man. Eat to die. You know what it's like? You understand me? Shoot to live, eat to die. They wonder what it's like when the ocean line meets the sky. Millennium. Let me get a bite, huh? Millennium. Shoot to live, eat to die. They wonder what it's like when the ocean line meets the sky. Millennium. Millennium. Alright, we got it. Cool. Yeah, these chips. Shoot to live, eat to die. You ever wonder what it's like? Well, you better give me a bite, man.
Try again.
Il est sur le starting block. Cool et détendu. La semaine dernière, nous étions pas là pour cause d'interruption momentanée malotrue par notre direction.
Bah, ça nous a fait des vacances, c'est bien.
Allez! Allez, dis-moi que tu as du super-héros à couilles.
Un
d'accord.
Petit peu de super-héros. Et tout d'abord, tu sais que c'est au mois de juin 1938 que dans le numéro je sais pas combien de Action Comics est apparu un certain Superman.
Le numéro 1.
Ça fait donc 70 ans. 70 ans, en fait, les 70 ans de Superman et d'Action Comics, un des premiers super-héros de la bande dessinée. Revenons-en aux super-héros modernes avec dans le Marvel Heroes numéro 8 hein, du mois de juin, donc toujours les mêmes séries. Et surtout un numéro 2 de Thor, la nouvelle série de Straczynski et Coipel. Et là c'est assez rigolo, dans la première, dans le premier épisode, on apprend que Thor se réveille et que donc il retourne sur Terre. Choisit un petit coin, un trou perdu au fin fond de l'Oklahoma où il y a vraiment personne, une petite bourgade de 600 habitants. Dans le deuxième, eh ben qu'est-ce qu'il dit ? Ben je vais faire venir mes potes parce que je suis tout seul, je me fais chier quoi, tu vois. Et donc il appelle Asgard. Asgard, c'est l'endroit où il vit.
PCV parce que c'est il a pas les
sous. Et donc grâce à son marteau, bien sûr, Mjolnir,
il arrive
à faire revenir le château d'Asgard. Le problème, c'est que il y a les flics qui voient ça et qui disent non, vous pouvez pas, Monsieur Thor et tout, vous pouvez pas laisser votre truc là. C'est un terrain qui appartient à quelqu'un et tout. Et Thor, il va faire un petit marchandage avec le propriétaire. Alors d'abord, il dit ouais, c'est vrai, je suis posé dessus et tout. Alors il soulève carrément tout le château avec un bout de terre qui flotte à environ 1 mètre du sol et dit non, voilà, techniquement, je suis plus dessus. Quoi. Et ensuite, t'as le proprio qui revient à la charge. Ouais, mais enfin, bon, là, je peux rien en faire de mon terrain et tout. Puis il dit bon, bah, ok, va dans la salle des trésors et tout, charge ton camion et ce que tu veux, et puis dégage. Et donc,
bravo,
qu'il a sa demeure, là où il s'est installé, dans un trou perdu de l'Oklahoma, il faut qu'il fasse venir chez ses potes parce que c'est pas joie tout seul, on se fait un petit peu chier.
C'est
et donc,
que la tempête.
À la fin du deuxième épisode, on le voit partir à la recherche de ses fidèles, Sif, Fandel, tous les autres. Et oui. Le royaume d'Asgard ne serait rien sans eux. Il y a également autre Thor, donc par Straczynski et Coipel. Hulk, bien sûr. Hein, là, ça dépote bien. Moi, j'aime bien, quoi, franchement, quoi. Dans la vague de toutes ces nouvelles séries
où Hulk intervient, c'est vraiment la une des plus passionnantes. Très violente hein, quand même, quoi, il faut dire, hein, mais ça marche bien. Un nouvel épisode également de Avengers, les Vengeurs, mais l'initiative, tu sais, la série sur le camp d'entraînement des jeunes Vengeurs.
Ah
là,
oui,
tu sais.
Oui, oui.
Alors là, c'est pareil, hein, parce que bon, bah, comme dans le dernier épisode, Hulk fait son apparition sur Terre, donc il se dit ouais putain on va le péter et tout, on est là pour
putain,
ça.
Putain lui c'est un rebelle et tout. Ouais.
Alors bon, ils désobéissent aux ordres, ils font tout et n'importe quoi, c'est le gros bordel et tout. Il y a également.
Alors pourtant tout le monde connaît le proverbe. Ouais. Quand Hulk est aux toilettes et qu'il y a plus de papier, et bah t'es pas dans la merde.
Il y a également, ben justement, du côté des bons mots, on peut les trouver dans Gamma Corps, qui est en fait une bande de super-héros, plutôt super-vilains, on va dire, mais qui ont une particularité, c'est qu'ils ont tous développé leur sens de super-héros ou leur malformation, appelez ça comme ça, par la même cause que ce qui a provoqué la transformation de Bruce Banner en Hulk, à savoir les rayons Gamma.
Ah, on et donc peut c'est faire comme
ça.
Lui.
Ouais. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle le Gamma Corps. Et ce Gamma Corps bien est cherché pour l'instant, bien d'essayer de dégommer Hulk à fond les manettes. Il reste encore un épisode, mais bon, ça dépose aussi grave et c'est aussi assez violent, on va dire, hein, assez sombre quand même. Donc Gamma Corps, le deuxième épisode, le troisième donc dans le prochain numéro, ce sera l'épisode final dans Marvel Heroes numéro 8. Je crois que tu as un petit morceau de musique à nous faire écouter.
Oui, quelque chose qui pourrait faire plaisir enfin une fois à Xavier.
Ah.
L'album sort la semaine prochaine.
Ouais.
Et c'est dommage que Thomas ne soit pas là parce qu'il aurait reconnu tout de suite une de ses marques préférées.
Oh, bah il l'aura sur le podcast. D'ailleurs, je suis en retard de 15 jours. Je sais pas bien.
And I'm biting on my tongue and I keep stalling and keeping it together. People around gotta find something to say now. Holding back every day the same. Don't wanna be a loner. Listen to me, oh no. I never say anything at all. But with nothing to consider, they forget my name. Aim, aim, aim. They call me Hell. They call me Stacy. They call me Hell. They call me Jay. That's not my name. That's not my name. That's not my name. That's not my name. They call me Quiet, but I'm a riot. Mary Jo Lisa, always the same. That's not my name. That's not my name. That's not my name. That's not my name. I'm Mr. Catch if they throw me the ball. I'm the last chick standing up against the wall. Keep Stacy, they call me her. They call me Jane. That's not my name.
je te laisse le soin de désannoncer le morceau.
Ben, ça s'appelle, le groupe s'appelle les Ting Tings et c'était That's Not My Name. L'album sort la semaine prochaine, lundi, dans tous les meilleurs bacs. Et l'album est très bon.
Et comment ça se fait qu'on l'a déjà là? Il est sorti en avance
Il est sorti.
Il y en a qui n'ont pas respecté l'omerta.
Il y a ça, et puis je rappelle que nous sommes dans une radio. Nous recevons des albums en avance aussi.
Oh, c'est bien ça. Du sport à la zapette. Non, excuse-moi, et du sport, il est en train de noyer son chagrin.
Ouais, tout à fait. Allez, avec pas grand-chose d'inédit, sinon quelque chose qui est à moitié d'inédit, parce que on avait bien tenté, de par le passé, je crois, il y a l'année dernière, de diffuser cette mini-série de 12 films de 26 minutes présentés, réalisés par Jean-Pierre Mocky, concernant surtout pour les histoires originales, les histoires adaptées, des histoires qu'écrivait Hitchcock, tu sais, les bouquins histoire à ne pas lire la nuit, histoire à faire peur, hein,
je sais pas si tu connais ça. Tout à fait, ouais.
Voilà, bon, il y en a eu de flopés quand même, il a sorti pas mal. Bon, c'est pas lui qui écrivait tout, hein, il avait plus ou moins des nègres semi-officiels ou officiels, mais c'était quand même de très très bonne facture. Et donc Mocky décide d'adapter ces trucs là alors avec comme d'habitude, c'est du tournage à la Mocky, c'est-à-dire Fissa vite fait, trois prises maximum, filmé à la DV en plus parce que c'est pour la télé. De toute façon, par contre, casting assez en béton hein, en ce qui concerne
Il a quand même fait des bons films, Mocky, qu'on peut pas dire qu'ils ont été bâclés. Hein.
Ah oui, tout à fait quoi. Bon, enfin bon, quand on sait comment ça se tourne, Mocky, c'est assez rigolo quand même. Alors Jean-Luc Anglade, Charles Berling, Bourdon, ah oui. Brasseur, Laurent Deutsch, Frédéric Diefenthal, Gala Bru, Laurent Gérard, Régis Laspalès. C'est le petit avec la barbe. Tom Novembre, Michel Piccoli, Dominique Pinon, Micheline Prel, Bruno Puzulu, Rufus et Ariel Dombal, qu'on verra dans le premier numéro diffusé, c'est demain soir sur 13e rue à 20h15. Alors c'est des formats courts, donc 26 minutes. Hein, et
Tout ce beau monde dans 26 minutes
hein. Non. C'est-à-dire que dans l'ensemble des 12 films, on va retrouver cette distribution. En ce qui concerne les rôles principaux, parce qu'il y en a d'autres en plus. Donc demain soir dans le lac, Ariel Dombal donc dans le rôle principal avec Stanislas Mérard et Aurélien Wilk. C'est sur 13e rue demain soir à 20h15. Et là, le retour de la Britney Spears anglaise, la très belle et très blonde, l'ex-égérie de Doctor Who.
Piper?
Billy Piper. Oh oui. Alors je vais vous dire, je vous avouer franchement, on l'avait vu dans Doctor Who, elle était un petit peu décalée, on va dire, hein, par rapport à ce que ça a donné par la suite, hein, avec le changement de Doctor Who, le changement de d'acolyte. Enfin bon, c'était un petit peu décalé, on va dire quoi.
La série est décalée à la base.
Ensuite, on l'a revue très récemment dans La vie secrète d'une call girl, où elle interprète le rôle d'une pute de luxe et tout. Alors moi, j'ai été très déçu. Très déçu. Évidemment, la série est assez osée, on va dire. Ça parle de la vie d'une prostituée de luxe en Angleterre, à Londres, alors avec qui parle donc à la première personne et qui explique devant la caméra comment elle s'opère les différentes choses, hein, c'est-à-dire elle s'adresse directement aux téléspectateurs. Mais par contre, un doublage français qui est complètement à côté, ne colle pas du tout, vraiment, quoi, ce qui fait que le petit intérêt, érotique, on va dire, le petit intérêt intellectuel qu'on aurait à suivre le cheminement de la pensée de cette fille, parce qu'en fait, c'est à ça qu'on veut nous faire parvenir, hein, c'est à rentrer entièrement dans la tête, et peut-être pas dans le corps, parce que ça va être très difficile, dans la tête de la personnage principale, l'héroïne principale. Mais bon, on a vraiment beaucoup de mal, et ça c'est un petit peu dommage, parce que c'est toujours très bien foutu. Le propos n'est pas vraiment scabreux, hein. Il y a pas mal de scènes d'humour et tout, c'est traité assez légèrement, peut-être un petit peu trop, c'est ce que certaines associations anglaises cléricales ont déploré, et se sont rebellés contre. Mais bon, on est loin hein, du brûlot attendu. Enfin bon, bref, moi je suis resté un petit peu sur ma faim. Et là, ben, Billy Piper, on va pouvoir la revoir encore et toujours sur Arte à partir de vendredi prochain dans eh bien, l'adaptation à la télé des romans de Philip Pullman, dont le premier est sorti en 85. Et là, il s'agit, il a sorti plusieurs bouquins. C'est un mec qui est, si tu veux, c'est un autre J.K. Rowling. Sauf que lui, bah, il n'a pas attendu Harry Potter. Lui, ça fait 20 ans qu'il est déjà riche à millions, grâce à ses bouquins, ses adaptations et tout le cirque. On a déjà adapté à La Croisée des Mondes, déjà porté à l'écran. Il y a une trilogie qui est en tournage avec Nicole Kidman, dont le premier volet est déjà tourné. Ça s'appelle La Boussole d'Or. Hein, donc ce mec, ça va, hein, tu vois, il est tranquille. Et ce qu'on va pouvoir voir, c'est bien sûr, la BBC s'est jetée sur l'adaptation de ses œuvres. Et là, la BBC a adapté Les Aventures de Sally Lockhart, ou en fait, les aventures d'une jeune fille de 20-25 ans à la mort de son père dans les années 1870-72 en Angleterre, ben, va se transformer un petit peu en impétrice, si tu veux, quoi. Donc ça peut être assez intéressant, un petit peu roman d'aventure comme ça, quoi. Interprété donc dans le rôle principal par Billy Piper, qui joue le rôle de Sally Lockhart. C'est vendredi prochain, avec le premier épisode de La Malédiction du Rubis. C'est, ça a été tourné il y a 2 ans hein, par la BBC. Par Brian Percival. Outre Billy Piper, on a également Julie Walters, J.J. Field et Matt Smith dans Les Aventures de Sally Lockhart. C'est vendredi prochain sur Arte à partir de 21h, la première partie donc de cette Malédiction du Rubis. Alors côté série, c'est assez le calme plat. Ce qui peut être intéressant, eh bien, c'est de revoir des séries dont vous avez aperçu des bribes, des épisodes comme ça, diffusés un petit peu à tour à travers, sur des chaînes qui généralement jouent le jeu, donc vont vous diffuser la série dans l'ordre initial. C'est le cas de Comédie qui vous refait Marier deux enfants. Là, je vous parlais plutôt de trucs. Voilà, c'est ça, avec le générique de Sinatra. Et on démarre de la saison 1, donc à partir de lundi, de 17h à 18h. Alors à chaque fois, à chaque jour, une rafale de 3 épisodes, mais dans l'ordre, donc ça vaut le coup. C'est sur Comédie, du lundi au vendredi, de 17h à 18h. Marié, deux enfants, la saison 1 qui démarre donc lundi. Il y a également lundi soir, le redémarrage, on va dire, d'une série qui a pas marqué, on va dire, et pourtant c'est l'adaptation à la télé. Sur écran donc d'un héros de comics, Witchblade, c'est sur Syfy, donc séance de rattrapage. Là c'est pareil, on va leur faire confiance, ils vont diffuser les épisodes dans l'ordre, donc on va pouvoir
c'est vrai que les fans du comics avaient été très déçus, mais je crois que c'était la période où il y a pas mal d'eau qui voulaient se lancer dans les trucs à effets spéciaux. Marvel aussi avait carrément monté sa spin-off où il s'était fait flinguer pour ça, et puis Witchblade est quand même graphiquement assez impressionnant. Alors
ouais, les effets spéciaux sont quand même pas mal, quoi, hein, de toute façon, quoi, faut le dire, hein. Yancy Butler dans le rôle principal également, Will Yun Lee et David Shokaki, ouais! Witchblade, donc c'est à partir de lundi, il y a 2 épisodes, les 2 premiers, hein, dont le pilote, à partir de 20h45. Sinon, découverte il y a maintenant 3 ans, hein, par Canal Jimmy, et curieusement jamais trop rediffusé, c'est pas mal, c'est l'occasion de redécouvrir donc cette excellente série de serial killer argentine qui s'appelle Epitaphios, 13 oui. épisodes d'une très très haute facture. Moi il y a un épisode qui m'a fait un peu chier, je l'avoue, hein, mais bon, c'était lié aux aventures un petit peu sentimentales entre les deux personnages principaux, tu vois, et puis bon, ça faisait mélo tout l'épisode, quoi, il se passait pas trop grand chose. Le reste, 13 épisodes vraiment excellent, hein, à part celui-là, mais enfin bon, il en faut peut-être aussi. Interprété par Julio Chavez, Lito Cruz, Paola Krum, Cecilia Roth et Antonio Birabent, entre autres. À partir de lundi sur Canal Jimmy, séance de rattrapage à 20h45 avec 3 épisodes diffusés lundi prochain. Également séance de rattrapage pour Ugly Betty sur TF1, qui sera diffusée à partir de jeudi prochain à 17h et ensuite bah, tous les jours hein, du lundi au vendredi.
Ouais, donc, faut dire aussi qu'ils ont fait, ils ont fait n'importe quoi pour la diffusion de la fin de la saison 2. Ouais. C'était, ça a commencé à devenir extrêmement chaotique du style ah ça fait plus d'audience donc ça on zappe donc ça on zappe.
Ouais, ouais,
donc là on change.
C'est
donc,
la, c'est justement la séance de rattrapage pour permettre de lancer bien la prochaine diffusion d'épisodes inédits.
Vous trouvez ça comment comme série?
Rigolo.
Ouais.
Ouais, ça va, c'est pas mal.
Je trouve ça fun. Honnêtement, je passais un moment, je me suis assez poilé devant. Je trouve que la description est plutôt honnête et puis. Enfin, c'est un truc de fantasy à la base.
Ouais,
hein.
Ouais, tout à fait.
C'est monté de manière plus comédie musicale qu'autre chose. D'ailleurs, la fin de la saison 1 est une
comédie musicale. Ouais, enfin, moi je trouve que ce qui manque, c'est qu'ils auraient dû peut-être outrer un petit peu en ce qui concerne le style cartooniste, comédie musicale, parce que je sais pas, je trouve que c'est un peu fade de ce côté-là. Mais sinon, bon, bah, c'est quand même très très bien écrit, hein, ça il faut l'avouer. Alors, on termine avec du classique cette semaine. Du classique et la semaine sur TCM qui est une des chaînes qui vous diffuse vraiment des gros classiques, des,
ouais, ils
des
ont
films
des...
qui ont fait mouche à leur époque ou qui sont encore dans nos mémoires. Dans
là
nos
ils
jeux.
Sont en plein dans un trip années 80. La bande annonce était assez rigolote parce qu'elle reprenait le design de la pub de HBO dans les années 80.
Ouais ouais ouais. Mais enfin bon,
t'es pas mal du tout.
En ce qui concerne le prime time, c'est un petit peu tout, mais enfin bon, c'est surtout des trucs assez connus. Ce soir, en fin d'après-midi, tout d'abord sur TCM à 17h05, New York 1997 de Carpenter. Sinon à 20h45, Scaramouche de George Sidney en 52,
oui.
Avec l'excellent Stewart Granger et la maman de Jamie Lee, Janet bien sûr Lee, dans Scaramouche. Là celui-là il est bon, un peu moins bon. George Sidney, il avait fait quand même les Trois Mousquetaires, hein, la version de George Sidney en 48, qui est là tombé par terre. Ah si si, là c'est un des grands chefs-d'œuvre du cinéma, hein, faut le dire. Là, c'est un petit peu moins bien, on va dire, mais c'est quand même très très bon avec Stewart Granger, donc rien à dire. Et à 22h45, aux frontières de l'aube, le film de Catherine Bigelow. Tu vois, c'est vachement varié hein, comme truc, hein, quand même. Demain
qui est,
soir,
qui est plus un film vampirique, hein, il faut le savoir.
Ah ouais, ouais, non, mais excellent film de vampire. Lance Erickson, Adrian Pasdar, avant Mel Profit, tu vois, si, c'est quelque chose. Demain, à 20h50, L'année du dragon de Cimino. Suivi, ouais, excellent, hein, de toute façon, tu le revois, tu te surprends encore à bien aimer le film, quoi, tu vois. Enfin, moi, ça me, chaque fois, quoi, je retombe dessus et tout, je regarde, je laisse un petit peu, ça fait plaisir et tout, quoi, c'est, si, rien à dire, hein. Mais par contre, après, 23h05, un film également projeté en ce moment à la Cinémathèque de Toulouse dans le cadre de la thématique
Ennemi
public, et il s'agit de Public Enemy, yeah, de William Wellman en 31 avec James Cagney. Alors là c'est le film en plus qui est sorti.
C'est pas avec l'acteur avec la cicatrice.
Non,
c'est Scarface.
Pas du tout. Non, avant Scarface, avant. Alors James Cagney donc dans le rôle principal. Alors lui choisi au dernier moment, en plus il voulait pas jouer dans ce genre de film parce que lui c'était avant tout un acteur de comédie musicale, hein, Busby Berkeley, les Ziegfeld Follies et tout ça, lui il voulait faire que ça. On le découvre donc dans Public Enemy aux côtés de Gene Harlow, Edward Woods, Joanne Blondell. Et là c'était avant Codays, donc il se lâchait quand même, quoi, au niveau des scènes un petit peu on va dire violentes.
Ça y allait, hein.
Ça y allait bien, quoi, sans problème. Il y avait quelques allusions un petit peu scabreuses également, sans problème. Public Enemy. Alors ça raconte l'histoire d'une petite frappe, hein, qui a décidé, bon bah ok, de monter dans la vie. En faisant des petites embrouilles, des petits trucs comme ça, et au fur et à mesure ça monte, lui également il va monter, mais il va descendre automatiquement. La morale reste sauve quand même à la fin du film, rassurez-vous, hein, il meurt à la fin du film, mais c'est excellent, c'est l'un des films fondateurs, hein, de ce film de genre de polar aux États-Unis. Oui, tu avais dit quelque chose d'autre.
Ah non, rien du tout.
Donc c'est vraiment à voir. Et c'est vachement marrant parce que pratiquement en même temps, enfin demain soir, non, juste avant, sur Ciné Polar, eh bien il y a également un autre film qui s'appelle Public Enemy, mais qui n'a rien à voir. Hein, c'est un film sud-coréen de Kim Woo-suk de 2002, hein, qui raconte l'histoire de deux frangins, l'un flic et l'autre pas flic du tout. Donc Public Enemy, c'est demain soir à 23h05 de William Wellman, à ne pas louper de toute façon. Enfin, c'est l'un des grands classiques. Lundi sur TCM à 20h45, on y revient à New York 1997. De Carpenter, et à 22h25, Chacal de Fred Zinnemann de 73, très bon film, hein, l'histoire de l'attentat sur De Gaulle.
D'une tentative d'attentat par l'OAS et d'une traque sans pitié et sans merci.
Ouais. Mardi à 20h45, Traquenard de Nicolas Rey, 58, avec Robert Taylor et Sid Charis. Oh là 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 là-dedans, oh là 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 là, encore mieux que dans les comédies musicales. Je t'assure. Et à 22h25, on en parlait un petit peu avant à l'occasion de Billy Piper, Belle de jour, le film de Buñuel. Mercredi, alors c'est spécial Clint Eastwood à 20h45 avec Un frisson dans la nuit, Play Misty for Me. Le premier film donc écrit et réalisé par Clint Eastwood avec l'excellente Jessica Alters et Donna Mills, hein, enfin les deux nanas. La gentille nunuche et tout, et celle qui terrorise Clint Eastwood jusqu'à pratiquement à la fin du film. Excellente, très bon film donc, et suivi d'un bon film de Don Siegel à 22h30 mercredi prochain, Un shérif à New York, toujours avec Clint bien entendu. Jeudi prochain sur TCM à 20h50, Le secret de mon succès de Herbert Ross avec Michael J. Fox, un peu de comédie, et Helen Slater suivi. La 22h40, là, c'est plus du tout de la comédie. Le Prince de New York de Sidney Lumet avec Treat Williams, ouais, et Jerry Orbach qui vous prouve qu'il y avait une vie après West Side Story, mais avant Arabesque et surtout New York District, bien sûr. Vendredi à 20h45, ça c'est un grand classique et c'est grand public également, hein, sur TCM. Miss Daisy et son chauffeur, c'est quand même le film de Bruce Beresford là, qui a révélé Morgan Freeman au grand public. C'était en 89, avant Morgan Freeman, et pourtant il avait déjà une putain de carrière d'acteur.
Oui, oui, oui.
Mais second rôle, petit truc, drôle de... Hein. Là, ok, bah il joue le faire-valoir de Jessica Tandy, mais c'est là qu'on le révèle.
Mais il est étonnant dans son jeu, justement, là-dessus.
Je crois qu'il y a eu une histoire d'Oscar.
Oui, 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 non, mais il a été plusieurs fois oscarisé. Quoi.
Voilà, donc c'est vendredi prochain, 20h45, sur TCM. Allez.
Oui.
Allez, un petit morceau de musique là.
Quelle plage tu me l'as pas donné?
La 4.
La 4, il t'a dit.
Voilà. Si, si, il l'avait dit en plus. Quoi, tu vois.
And me.
Young bird. Yes it is. Young bird. Young bird. They get you out of my mind. Just one look and I was captured. I tried to walk but I was lame. Just could not help myself from shouting.
Here, girl.
Come here,
baby. Young girl. Young girl. Young girl. Can't get you out of my mind. What a crazy stuff. She looks so tough. I had to follow her all the way home. But things went left. I met her dad. What'd he say, boy?
My daughter alone.
I couldn't sleep at night for crying. I saw the rise of another sun. All night long my heart was crying. She's the one.
She's the one.
I saw her first.
She wants me.
Young girl. Young.
get in the car.
Young blood. Young blood.
Bruce Willis, et oui, c'était bien lui, c'est aussi étonnant que cela puisse paraître. Et bah on l'a pas reconnu à cause de la voix habituelle là qu'il a en français.
Enfin, ah non, non, mais c'est comme Steven, tu
vois. Youngbloods, voilà.
Youngbloods, ouais, ouais. C'est comme Steven, tu vois, il a l'amour du blues et donc bah, il essaye d'en faire lui-même. Bon, il se débrouille pas mal, quoi, on va dire. Ça va, quoi, il y a pas mal de reprises sur l'album qu'on a là, mais enfin bon, c'est plus une compilation. Mais
c'est une compilation de vieux morceaux des années 80, ça.
Ouais, ouais, c'est la période 85-89 de Bruce Willis. Donc, mais on reconnaît bien les synthés des années 80 et tout.
C'est clair.
Agréable et tout, comme ça.
Ah, mais c'est hein, vraiment très très bon.
Juste deux petites annonces rapides. 6MMP, le numéro 10, est sorti de cette revue édition, cette revue artistique à édition ultra limitée et gratuite. Et toujours d'excellentes factures. Donc c'est les étudiantes en art qui font ça derrière, enfin qui supervisent ça avec maintenant pas mal d'auteurs invités et qui tournent autour Radio FMR. Avec notamment, tiens, et je vois qu'il y a le collectif La Maison qui pue qui vient d'entrer. Et sinon, JB, puisque tu me l'as rendu, donc on a eu l'annonce cette semaine. Émile Bravo qui a fait une aventure de Spirou et Fantasio, Spirou, le journal d'un ingénu chez Dupuis qu'on avait adoré. Et ben, ça a tellement bien marché que j'avais dit que c'était un one shot.
Il y aura une suite est prévue.
C'est pas c'était pas voulu au départ. Donc il y a bien une suite qui sera prévue. Émile Bravo a dit que ça va être un petit peu difficile. On verra. Voilà, je vous laisse rendez-vous la semaine prochaine de notre côté où Thomas sera revenu. Si vous avez manqué le début de cette émission, eh ben Thomas était en direct donc d'Annecy et plein de documents qu'il a pu annoncer. Vous aurez le débrief complet la semaine prochaine. En attendant, si vous voulez poser vos questions, réécouter les chroniques ou bien laisser voir, farfouiller dans nos archives, n'hésitez pas. Il suffit d'aller sur le site supplementweekend.tk. Vous tapez ça dans votre navigateur sans accent ni et vous tombez à tous les coups, ou sinon vous cherchez Supplément Week-end dans Google, vous loupez pas Supplément Week-end sur Radio FMR, on est en premier. On peut pas tomber mieux. Voilà. La suite des programmes sur Radio FMR avec de suite, bien évidemment, votre cahier sportif. Ensuite, c'est du reggae à 15h avec Zarma Farai. Ça, c'est la bonne viande. Découverte musicale à 17h. 18h du rock avec Big Bang. 19h Happy Hour pour l'arrivée de la petite olive dans le Martini Schweppes. Pardon, pas de marque. Excusez-moi. 20h, pardon, excusez-moi. DJ Jésus avec la CTRO Experience. 21h39, Love See You Two Step. Et à 23h, le potager. Oui, JB.
Non, DJ Jésus, si c'est une marque, je te rappelle.
Ça, on verra avec le Vatican, ils me poseront moins d'emmerdes. Ciao, bye bye, je vous laisse avec du ciao, plus.
Ciao.